Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, première édition, avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les titres du journal.
Mais qui est Philippe Pétain, héros de la Première Guerre mondiale ou traître de 1940? Emmanuel Macron se retrouve au cœur d'une polémique car le maréchal sera honoré samedi avec les autres officiers de la Grande Guerre. La gauche et la communauté juive s'indignent.
À 18h30, l'analyse d'Alain Duhamel.
Dmitri Ribolovlev mis en examen à Monaco. Le milliardaire russe patron de l'AS Monaco est mis en cause dans une vaste affaire d'escroquerie sur fond de vente de tableaux. Une sixième victime à Marseille après l'effondrement de deux immeubles en centre-ville. À ce stade, les causes du drame ne sont pas établies, dit le procureur.
À 18h20, premier invité d'RTL Soir, le ministre du Logement, Julien de Normandie.
À suivre également les fanfaronnades de Donald Trump galvanisées par les élections de mi-mandat dans lesquelles il a tout de même perdu la majorité à la Chambre. Le bâton pour les trottinettes électriques qui circulent sur les trottoirs. Désormais à Paris, ce sera 135 euros d'amende. Et puis le Goncourt 2018 attribué à Nicolas Mathieu pour son roman Les Enfants après eux chez Actes Sud. Une tentative littéraire et politique sur la Lorraine il y a 20 ans.
La météo, bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Et demain le temps sera calme avec des températures de saison.
Oui, une petite accalmie entre deux perturbations. Alors la matinée sera assez grise, en particulier sur la moitié nord avec de nombreux nuages bas et des brouillards jusqu'en Nouvelle-Aquitaine et dans la vallée de la Saône. Mais dans l'après-midi, on retrouvera un temps plutôt agréable avec de belles éclaircies. Ça restera quand même assez nuageux tout au long de la journée entre le massif central et le sud-est avec encore quelques averses résiduelles. Et puis les températures de saison pour demain, 3 à 14 degrés le matin et 10 à 20 dans l'après-midi.
Merci Patricia et à tout à l'heure.
RTL Soir.
Décidément Isabelle, l'itinéraire mémoriel n'est pas un long fleuve tranquille. À Charleville-Mézières, Emmanuel Macron a été rattrapé par une polémique sur le maréchal Pétain.
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, un hommage doit être rendu samedi aux Invalides, aux maréchaux de 14-18, y compris Philippe Pétain. Une décision qui fait débat forcément, mais qu'Emmanuel Macron défend tant bien que mal. Je ne pardonne rien, mais je ne gomme rien de notre histoire, dit-il.
Moi je regarde toute notre histoire en face. Maréchal Pétain, quand il a dirigé la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été complice de crimes profonds qui ont été maintenant reconnus. Et la responsabilité de l'État français a été reconnue. Je l'ai dit, j'ai été clair sur ce point. Et je veux le dire ici d'ailleurs à toutes les familles, les enfants, les petits-enfants de ceux qui ont eu à subir ce que l'État français alors a pu faire ou a été complice de faire. Mais Pétain, avant, a été un maréchal de la Grande Guerre. Et donc, je ne pardonne en rien. Mais je ne gomme rien de notre histoire. Et donc, il y a eu des hauts faits militaires, il y a eu une forfaiture dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais il nous faut, quand la question est posée, regarder aussi l'histoire en face et savoir reconnaître ce qu'a été la Première Guerre mondiale.
Emmanuel Macron, micro RTL de Vincent Derosier.
Un des déclarations qui suscite de très vives critiques de Jean-Luc Mélenchon. L'histoire n'est pas votre jouet, a lancé sur Twitter le leader de la France insoumise. Indignation aussi de la communauté juive. À l'issue du Conseil des ministres ce matin, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a dénoncé une mauvaise et vaine polémique. Il a même cité le général de Gaulle qui, parlant de Pétain, affirmait que sa gloire à Verdun ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie.
On y revient évidemment à 18h30 avec Alain Duhamel. En plus de cette polémique, Emmanuel Macron a de nouveau été confronté à la colère des Français en mal de pouvoir d'achat.
Oui, hier déjà, il avait été interpellé sur la hausse de la CSG et le prix des carburants, mais l'échange était resté courtois, viril mais correct, comme on dit. Aujourd'hui, le ton est monté. Écoutez cet échange.
Je vous explique pourquoi on fait toujours. Ça. On fait ça pour que le travail paye mieux. Et c'est indispensable, parce qu'il faut remettre tout le monde au boulot.
Mais oui, parce qu'il y a du boulot, vous avez raison. Mais on ne les paye pas, les gens qui veulent
mais
travailler.
Si, parce que là,
on n'a plus. Monsieur le Président, moi je vais vous le dire, on est dans la vie active. Les gens qui ne travaillent pas, et je leur donne raison, ils ont plus facile à rester à la maison parce qu'ils gagnent plus que les gens qui travaillent de base.
Ben,
je vous le jure que c'est vrai.
Aujourd'hui, c'est
avec les aides, tout, ils ont plus à rester à la maison. Pourquoi ils iraient travailler?
Alors je vous explique pourquoi on est en train de le changer.
Mais il serait temps, mais qu'on change pour les gens qui travaillent.
Je sais, mais je suis pas là. Je suis là depuis un an et demi.
Je sais,
pas là
Monsieur le Président,
ans.
Mais non, mais justement. Alors pourquoi vous nous massacrez? Pourquoi nous?
Non, je massacre
à peine 2000 avec mon mari. On nous baisse encore les retraites.
Massacre personne.
Alors pourquoi on nous baisse nos retraites? On n'a pas 1200 chacun.
Regardez,
j'ai 880. Moi,
tu vas lui donner ta carte.
Parce que le seuil de le revenu fiscal de référence, c'est 1200 euros.
Échange tendu donc entre Emmanuel Macron et cette habitante de Charleville-Mézières. On en vient à ce coup de tonnerre sur le rocher. Dmitri Ribolovlev a été mis en examen aujourd'hui.
Le milliardaire russe est le propriétaire de l'AS Monaco. Son club est en pleine déconfiture sportive. Et voilà qu'il est rattrapé par une enquête pour une vaste affaire d'escroquerie sur fond de vente d'œuvres d'art. Bonsoir Jean-Alphonse Richard.
Bonsoir.
Que lui reproche-t-on exactement?
Alors on lui reproche des faits de trafic d'influence. En résumé, d'avoir tout mis en œuvre pour piéger le marchand d'art suisse Yves Bouvier, avec qui il est en guerre ouverte depuis 3 ans. Le juge soupçonne Ribolovlev d'avoir avoir mandaté son avocate, également poursuivi pour rapprocher certaines autorités policières et judiciaires du Rocher afin de nuire aux marchands d'art. C'est l'examen d'un téléphone portable de l'avocate qui aurait révélé cette opération de tentative de corruption. Le propriétaire de l'AS Monaco, dont le luxueux appartement a été perquisitionné et qui est désormais placé sous contrôle judiciaire, nie totalement les faits. Pour lui, c'est un redoutable retour de bâton, car c'est bien Riboloviev, 242e fortune mondiale, qui le premier avait saisi la justice en 2015. Il accusait alors le marchand Yves Bouvier de surfacturation sur des toiles de maître, une escroquerie estimée à 1 milliard d'euros. Cette procédure s'est enlisée et n'a cessé d'être une source de déboire pour Riboloviev, qui, de victime potentielle, est ce soir désigné comme un présumé suspect.
Merci Jean-Alphonse Richard.
13 supporters ultra du PSG condamnés à des peines de prison allant jusqu'à 10 mois ferme, c'est à 3. Ils étaient accusés de divers faits de violence lors d'une bataille contre des ultras rémois en 2016.
Après la pub, on ira à Marseille où on compte désormais 6 victimes après l'effondrement de 2 immeubles lundi.
RTL Soir, 18h07. RTL Soir. 18h08, RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
À Marseille, on compte donc désormais 6 victimes après l'effondrement de 2 immeubles lundi dans le quartier de Noailles.
Le corps d'un homme a été retrouvé ce matin sous les gravats. 6 morts donc et toujours 2 disparus. Un troisième immeuble a déjà été détruit par précaution et désormais les bâtiments voisins sont totalement interdits d'accès. Les autorités redoutent un effet domino. Reste la polémique sur le logement indigne. Qui est responsable de ce drame? Étienne Baudu, vous venez d'assister à une conférence du procureur de Marseille.
Oui, écoutez, 3 des 6 victimes sorties des décombres ont été identifiées. 3 locataires, 2 femmes et un homme. À l'heure actuelle, il reste 2 disparus avec cette question qui est en suspens. Y avait-il aussi des squatteurs dans l'immeuble du 63? Alors, l'information judiciaire a été ouverte pour blessure et homicide involontaire. 85 enquêteurs de la PJ sont mobilisés. Un expert a été mandaté pour étudier la chronologie des faits, savoir quel immeuble s'est effondré en premier, quel est l'historique des désordres constatés sur les bâtiments. Et le dernier désordre en date, c'est cet arrêté de péril imminent pris le 19 octobre dernier. Le syndic de l'immeuble habité entreprend des travaux de consolidation du premier étage qui menace de s'effondrer. Il a 21 jours pour les réaliser, mais 19 jours plus tard, l'immeuble s'effondre. Alors les premières auditions mettent en lumière des témoignages qui établissent que lundi matin, des locataires font état de dysfonctionnement, des portes ne s'ouvrent plus, des fissures sur les murs s'agrandissent. Reste donc aujourd'hui un très long travail d'enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame et établir les responsabilités.
Merci Étienne Baudu à Marseille pour RTL à 18h20. Dans 10 minutes, donc, on en reparle. On reparle de cet inquiétant état des immeubles en France avec le ministre du Logement, Julien de Normandie. Direction maintenant les États-Unis où Donald Trump fanfaronne comme jamais.
Les élections de mi-mandat ont pourtant livré un résultat en demi-teinte. Certes, le président américain a conforté sa majorité au Sénat, mais il l'a perdu à la Chambre des représentants où les démocrates ont gagné une trentaine de sièges selon les dernières estimations. Tout cela avec une forte participation. Malgré tout, dès ce matin, Donald Trump exultait sur Twitter en évoquant une grande victoire. Et ce soir, il enfonce le clou dans une conférence de presse, Philippe Corbet.
Oui, il est justement en train de parler depuis quelques minutes en direct sur toutes les grandes chaînes. Il insiste pour convaincre l'Amérique que ce n'est pas seulement un match nul ou une demi-victoire, mais bien une grande victoire.
C'était un grand jour hier, un jour incroyable. La nuit dernière, le Parti républicain a fait l'histoire. Nous l'avons fait en disant tout simplement contre une couverture médiatique très très hostile. J'ai tenu un grand nombre de meetings, 30 les 60 derniers jours, et on voit que les candidats que j'ai soutenus ont obtenu de grands succès la nuit dernière.
Et dans des tweets, il mettait déjà en garde les démocrates qui ont pris la Chambre, dont le rôle constitutionnel maintenant est d'exercer un rôle de contre-pouvoir, de lancer des investigations si nécessaire. Il les met en garde, il menace de contre-attaquer. Il attaque aussi le procureur qui mène les investigations sur l'affaire russe. Il parle d'une chasse aux sorcières. En fait, il comprend bien que la victoire des démocrates à la Chambre l'expose désormais à des enquêtes, des investigations. Et il n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Il prend l'Amérique à témoin.
Merci donc Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL. Le gouvernement français n'a pas dit son dernier mot sur la maltraitance animale. Le ministre de l'Agriculture monte au créneau au sujet des abattoirs.
Oui, Didier Guillaume a suspendu la semaine dernière l'activité d'un établissement de l'Indre après la diffusion d'une vidéo assez insoutenable de l'association L214. Aujourd'hui, il était en déplacement à Rethel dans les Ardennes, mais c'est un abattoir modèle qu'il a visité. Cela dit, il en a profité pour afficher sa détermination.
Moi, je vais vous dire les choses très clairement. J'ai fermé un abattoir et j'en fermerai peut-être d'autres. Sans aucun état d'âme, et ma main ne tremblera pas quand je signerai cela. Parce que il y a une chose, c'est que dans un abattoir, il y a des règles. Et le directeur de l'abattoir est responsable de cela. Et moi, je lutterai toujours contre la maltraitance animale. Si je dois fermer d'autres abattoirs, si ça se passe comme ça s'est passé dans l'Indre dernièrement, je ne tremblerai pas et je le ferai. Par contre, nous avons besoin d'abattoirs dans ce pays parce qu'il y a encore des gens qui mangent de la viande. Voilà, et donc à partir de là, quand les choses sont faites correctement, il n'y a aucun état d'âme.
Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, au micro RTL de Jacques Seret. Elles ont envahi les trottoirs à Paris. Les trottinettes électriques seront verbalisées.
Quelques mois après l'arrivée de ces véhicules en libre-service dans la capitale, c'est un peu l'anarchie, il faut le dire. D'autant qu'il faut compter aussi avec les overboards, les gyropodes et bref, tous ces nouveaux engins. Il y en a partout, ça va vite, hein, 25 km/h et les piétons ne sont plus en sécurité. En tout cas, ils ne se sentent plus en sécurité. Alors la mairie a pris des mesures. Désormais, rouler sur un trottoir, ce sera 135 € d'amende. Qu'en pensent les Parisiens, Anne Le Hénaff ?
Alors oui, c'est vrai qu'elles vont vite, les trottinettes, sur les trottoirs, et leurs conducteurs en sont d'ailleurs bien conscients.
Oui, on est dangereux pour les piétons, évidemment, oui. Alors après, tout dépend de la conduite, mais dès qu'on a l'impression d'être tout seul à circuler, on est dangereux pour les autres, évidemment, oui.
Je sais que des fois, quand je suis vraiment pressé, c'est vrai que je roule assez vite et je suis assez proche des piétons, c'est vrai que c'est dangereux, parce qu'on sait jamais. De là à mettre 135 € d'amende, quand même, ça, je suis pas forcément d'accord.
Mais les piétons croisés par RTL ne souhaitent pas pour autant voir ces trottinettes crouler sous des PV aussi sévères.
Quand on est piéton, oui, bien sûr que c'est un peu plus embêtant maintenant, mais bon, pas d'amende, non. Je pense que les amendes, s'il y a un peu trop pour tout le monde, donc non, c'est pas la peine.
Et ils vont trop vite sur les trottoirs.
L'amende, moi, je trouve ça bien, mais après, ça dépend à quelle vitesse ils roulent.
Ils sont finalement assez d'accord sur une chose, il faut apprendre à cohabiter. Il faut du temps pour les piétons, pour les trottinettes et pour les voitures et les bus qui les frôlent parfois dangereusement quand elles roulent comme il faut sur les pistes cyclables.
Reportage RTL, signé Anne Le Hénaff.
Le foot, suite de la Ligue des Champions. Ce soir, Lyon reçoit les Allemands d'Offenheim. C'est à 21h. Le foot, c'est aussi Nicolas Anelka qui va désormais prodiguer ses conseils aux jeunes pousses du centre de formation de Lille. C'est une vraie surprise. On n'attendait carrément pas à ce poste d'éducateur l'ancien enfant terrible de Naïsna.
Et puis, c'est une histoire d'ado qui remporte le Goncourt cette année. Isabelle.
Oui, Bernard Pivot et sa bande ont récompensé Nicolas Mathieu pour son roman « Leurs enfants après eux » paru chez Actes Sud. L'histoire d'une bande d'ados en déshérence dans les années 90 dans une petite ville de Lorraine. C'est le deuxième roman de Nicolas Mathieu, totalement ébloui par son prix.
La surprise, le plaisir, je ne sais pas très bien quoi vous dire. En réalité, je suis ravi d'être là. Quoi. C'est Mais vous imaginez que ce livre, c'est quand même 18 mois enfermé dans une pièce seule. Et puis d'un coup, je suis là comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. C'est à la fois fantastique et assez déstabilisant.
Est-ce que ce prix, vous avez envie de le dédier à quelqu'un ou à quelque chose ou...
Le livre s'ouvre sur une adresse à mon fils. Donc je pense à mon fils Oscar et je pense très fort aujourd'hui. Ouais. Il a 5 ans et demi.
Nicolas Mathieu, nouveau Goncourt donc au micro RTL de Bernard Lehu évidemment.
Et notez que le Renaudot revient à Valérie Manteau pour son roman Le Sillon aux éditions Le Tripode. Le Renaudot qui semblait promis pourtant à Philippe Lanson pour son roman Le Lambeau, mais il a eu le Fémina, donc le Renaudot s'est fait griller par le Fémina. Dommage pour Philippe Lanson.
A tout à l'heure, vous revenez à 18h30.
A tout à l'heure. Il est 18h15.
À suivre, 3 jours donc après l'effondrement de plusieurs immeubles insalubres à Marseille, l'inquiétant état des immeubles en France. On fait le point avec le ministre du Logement, Julien de Normandie, et le premier invité d'RTL Soir.
RTL Soir.